Bonjour, c'est Jazz d'ici et d'ailleurs, l'émission qui veut vous faire découvrir et aimer le jazz, qu'il soit d'ailleurs ou d'ici. Au micro, Philippe Desmond d'Action Jazz, à la console, Danny Ducasse. Si vous êtes un fidèle auditeur, vous savez que les émissions ont un thème depuis quelque temps, les instruments de musique du jazz. Aujourd'hui, nous allons parler d'un instrument qui, à l'origine, n'était pas destiné au jazz, mais aux églises, pour accompagner le gospel, c'est l'orgue Hammond. Pour cela, nous avons sur le plateau un spécialiste bordelais, Hervé Saint-Guiron. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Voilà, ça fait plaisir de te recevoir.
Merci beaucoup.
Alors, je vais parler sous ton contrôle pour évoquer cet instrument imposant comme un meuble qui se joue avec les mains et les pieds. Inventé dans les années 30 par Lawrence Hammond, c'est un instrument électromécanique avec 91 pignons de taille et de nombre de dents différents qui tournent dans un champ magnétique suivant le principe de la roue phonique. Je suis sûr que vous avez tous compris. Alors le plus célèbre, c'est le modèle B3 créé en 1955, comme moi au passage, et popularisé par Jimmy Smith. On l'associe la plupart du temps à une cabine Leslie qui, grâce à un haut-parleur rotatif, ajoute du vibrato et à ses lampes fait de la distorsion. Alors un son inimitable, même par les modèles numériques actuels. Bon, pourtant, Lawrence Hammond refusait de coupler son orgue avec la cabine au départ. Il le jugeait autosuffisant. Alors en France, c'est Rhoda Scott et Eddie Lewis qui l'ont rendu populaire. On va bien sûr les entendre aujourd'hui. On aura une pensée pour Joe DeFrancesco qui est mort récemment à 51 ans. Il y avait Dr. Lonnie Smith, Ray Charles, Lonnie Nelson Smith, Corey Henry, Larry Young. Voilà, on ne va pas pouvoir écouter tout le monde. On n'a qu'une heure. Alors Hervé, l'orgue Hammond, j'ai pas dit trop de bêtises ?
Non, c'est parfait.
Est-ce que tu as un orgue Hammond chez
Alors,
toi?
Alors moi j'en ai un vrai qui pour l'instant est sous mon piano en stockage, en manque de temps pour être réparé. Les orgues Hammond sont très très solides, mais ils ont besoin d'un peu d'entretien. Voilà. Le mien, l'original, date de la fin des années 70, début des années 70. Voilà, il a besoin d'un peu d'amour que je n'ai pas trop le temps de lui donner pour l'instant. J'ai trop d'enfants à la maison pour l'instant, pas beaucoup de place. Donc je joue plutôt sur un orgue numérique et une vraie cabine Leslie. Pour avoir une configuration portable. Et puis, dès qu'on a l'occasion pour un enregistrement ou un studio ou pour un concert, de jouer sur un vrai, c'est un régal. Peut-être qu'on en parlera après, un des groupes où je joue, le Jazz Rebels.
On va en parler, on va l'écouter même.
Voilà, on va faire notre troisième disque bientôt. Et le studio a été choisi parce qu'il y a un vrai orgue Hammond, bien sûr. Pour un disque, c'est où l'orgue est important,
c'est bien sûr. Voilà. Alors, on va écouter un morceau cultissime. D'orgue Hammond, c'est The Cat de Jimmy Smith qui est accompagné de l'orchestre de Lalo Schifrin en 1964. Thank you. The Cat, le chat,
le grand Jimmy Smith. Le grand Jimmy Smith.
Alors, des commentaires sur Jimmy Smith.
Ah bah, c'est un organisme majeur parce qu'il a un peu inventé l'orgue moderne avant l'orgamon. Donc c'était un peu un pis-aller pour remplacer l'orgue à tuyaux. Je trouve que ça a beaucoup plu aux églises nord-américaines. Et les gens jouaient dans le jazz, ils en jouaient bien sûr avant Jimmy Smith, mais avec une technique un peu inspirée, ce qu'on appelle l'orgue du cinéma. Donc en accord, en bloc-corne, on appelle ça. Et il a fallu du temps pour que des gens trouvent un jeu plus spécifique à cet instrument. Et Jimmy Smith, voilà, ça a été une avancée. D'autres gens ont joué à la même époque que lui. Mais il a trouvé une façon de jouer l'orgue qui marchait bien avec le jazz de l'époque. On l'appelait jazz moderne. Voilà. Et ça a été une nouvelle ère pour l'instrument, vraiment.
Alors, un autre spécialiste américain de l'orgue à monde, alors lui, c'était dans le genre soul jazz, c'était Jack McDuff. Il disparut en 2001, donc là, on est dans un style tout à fait différent. Et il faut savoir qu'il y a un groupe bordelais qui reprend d'ailleurs une partie de son répertoire, c'est le groupe Callaghan. Alors, on écoute un tube, ça c'est vraiment un tube de Jack McDuff, Hot Barbecue.
On peut chanter en même temps ou pas?
On peut chanter en même temps, et voilà, que Sandrine Rousseau ferme les oreilles, puisque ça parle de barbecue. J'espère que vous avez chanté avec Jack McDuff, Hot Barbecue. Donc lui aussi, hein, c'était un personnage.
Oui, oui. Alors j'ai moins d'anecdotes sur lui, mais...
Voilà. Et on va écouter d'ailleurs maintenant un groupe bordelais, parce que la jeune génération, elle continue à s'en servir. Et c'est un groupe qui a été lauréat du tremplin en 2021, du tremplin Action Jazz. C'est le groupe DOT, D-O-T. Ça veut dire Don d'Organe Trio. Voilà, c'est très élégant. Et c'est un trio autour de l'orgue de Pierre Fabre.
Merveilleux Pierre Fabre.
Ah voilà, c'est un jeune organiste qui est vraiment impeccable. Et avec lui, Romain Laster à la batterie et Louis Schneider à la guitare. Alors, vous allez entendre de la basse dans ce morceau, mais il n'y a pas de basse, puisque la basse, elle se fait comment ?
Alors, Pierre, oui, Pierre joue beaucoup au pied, aux mains, enfin, il sait tout faire, Pierre. Ouais. C'est facile, il n'y a pas de problème, il sait tout faire. L'orgamon a des très beaux sons de grave, très nets, très distincts. Donc, les musiciens ont vite trouvé intéressant d'utiliser ces fréquences graves pour jouer les basses dans la musique. Éventuellement, pour remplacer un musicien, ça fait toujours des économies, mais enfin, même sans cet aspect-là, ça fait un son de basse véloce, qui peut être long, présent. Voilà, musicalement, c'est très, très intéressant. Et ce qui n'est pas le cas de tous les orgues, cet orgue-là peut être aussi grave au clavier qu'au pédalier. Donc, on peut jouer les mêmes sons, avec des timbres un peu différents, à la main gauche en général, ou au pied. Voilà. Et donc les gens ont mixé des techniques, soit en jouant que l'un, que l'autre, les deux en même temps. Voilà. Alors Pierre sait tout faire, c'est pratique. Il a réponse à tout parce qu'il sait tout faire.
Alors vous verrez souvent des organistes, mais ils sont ou pieds nus ou à pied de chaussette pour jouer les basses au pied. Alors on écoute Borsalino.
Thank you.
Pierre Fabre à l'orgue Hammond avec le groupe Dot, Romain Laster à la batterie et Louis Schneider à la guitare.
Pierre est vraiment très talentueux, il sait faire tout sur un orgue, tout faire sonner.
Voilà, et il a
une grande générosité.
Et il n'a pas 25 ans.
Non, voilà. Il est trop doué.
Il est trop doué. Encore quelqu'un d'énervant parce qu'il est doué. Alors, bien loin d'ici, en Nouvelle-Calédonie, eh bien, c'est une personne qui connaît d'ailleurs Olivier, et le fils de Dany Ducasse à la régie, qui habitait là-bas aussi, donc en Nouvelle-Calédonie. C'est un excellent organiste, Michel Benebig. Alors lui, pareil, il a affûté son style en écoutant Jimmy Smith, Eddie Lewis, Jack McDuff, Jim McGriff. Alors c'est un fan de la légendaire Rhoda Scott, qu'on va inviter tout à l'heure. Et il a invité la dame aux pieds nus, comme on l'appelle, sur le caillou plusieurs fois. Alors on va l'écouter dans un blues, parce qu'avec l'orgue Hammond on peut tout jouer. Et là c'est le blues for Rogue.
Thank you.
Et voilà, donc on écoutait Michel Benebig dans son album Nomea to New York. Il habite, il vit en Nouvelle-Calédonie. Il était sur l'album avec Carl Lockett à la guitare, Lewis Nash à la batterie et un invité, Houston Person, au saxophone ténor.
Ouais, il faut imaginer que quand on habite un coin un peu plus reculé, avoir un instrument aussi volumineux, c'est compliqué. Il faut le faire venir par bateau, l'entretenir. Voilà. Donc il y a des gens qui mettent beaucoup d'efforts pour avoir des instruments dans des endroits un peu moins accessibles, pour avoir des instruments en bon état et jouables. C'est très louable comme effort.
Eh oui, donc Michel Benebig, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous trouverez de toute façon la programmation et les pochettes de l'album sur notre page Facebook Jazz d'ici et d'ailleurs. Et dès ce soir, vous aurez le podcast qui sera en ligne et rediffusion, je le précise, la semaine prochaine à la même heure. Donc nous sommes avec Hervé Saint-Guiron, nous parlons de l'orgue à monde et on va parler d'un Parisien d'origine martiniquaise qui s'est fait connaître comme chanteur au sein des Double Six, si ça rappelle des choses à certains. Avec un certain Bernard Lubat qui chantait aussi dans les Double Six. Alors, il passe à l'orgue à monde dans les années 60, il joue avec Stan Getz, Kenny Clarke, Barney Kessel, Claude Nougaro, bien sûr. Et on l'écoute dans l'album Sans mêler en 1987 avec un titre de 1949, repris notamment par Aretha Franklin, Ray Charles, Louis Armstrong. Vous l'avez reconnu, pour ceux qui connaissent, c'est Eddie Lewis, bien sûr. On écoute, on en parlera après, That Lucky Old Sun, ce bon vieux soleil. Thank you. Eddie Lewis, en 1987, That Lucky Old Sun, c'était l'album sans mêler, mais il a fait évidemment bien d'autres choses, Hervé.
Oui, alors ça c'est l'époque, on écoute l'époque années 80 d'Eddie, avec un synthé emblématique, et puis il jouait de l'orgue, c'est la mélodie qu'on entend qui est jouée à l'orgue. Eddie a toujours été un musicien extrêmement versatile, styliste, ce qui n'était pas souvent le cas à cet instrument-là. Il a fait, c'était un très bon instrumentiste, grande technique, très bon lecteur. Donc il a fait des séances de studio pour tout le monde, Adavou, enfin tous les grands studios parisiens, plein de tubes de chanteurs. Une partie d'orgue, c'est très très souvent Eddie Lewis. Voilà, c'était un musicien très très subtil. Stan Getz n'aimait pas l'orgue à mon. Il disait, il y a un article célèbre où il dit que les organismes m'énervent avec leurs deux pieds, leurs deux mains et leur électricité. Et il tombe sur Eddie dans un club, il fait, c'est un génie. Voilà, et c'est l'article, j'ai cet article, je pourrais te le donner, Philippe, si tu veux. Il raconte, non mais ses accords, ses accompagnements, ses parties de basse, c'est un génie. Voilà. Il tombe sur quelqu'un qui joue de l'orgue à mon, donc années 70, Eddie joue encore un orgue un peu normal, avec un pédalier, une Leslie. Et il tombe sur un organiste qui joue un truc complètement différent. Pas du tout comme les organistes américains. Il a intégré Jimmy Smith et tout ce qu'il faut, mais il joue autre chose. Il joue des plans sonores, on dit, donc des sonorités les unes sur les autres. Voilà. Et Stan Getz, qui n'aimait pas l'orgamon, a joué avec un seul organiste, Eddie Lewis.
Et voilà.
Pendant un an. Voilà. Et Eddie, tous les cinq ans, changeait complètement différent de système. Donc après, il a enlevé la Leslie, il joue d'autres amplis. Là, ce qu'on vient d'écouter, c'est l'époque des années 80. Il a beaucoup intégré de synthé. Après, il a intégré un vocodeur sur l'orgue, dont il a beaucoup joué.
D'accord.
Voilà. Moi, j'ai découvert Eddie un peu plus tard, et j'ai découvert Eddie après avoir écouté Emmanuel Bex.
Et on va en parler d'Emmanuel Bex, justement, parce que je sais que tu es fan particulièrement d'Emmanuel Bex. Alors, tu vas nous parler de lui avant qu'on l'écoute.
Alors, ben oui, c'est un organisme. Alors, j'ai découvert l'orgue à Mont en vrai, je pense, en écoutant Emmanuel Bex sur scène à Aiguillon, Festival d'Aiguillon, dans le Tégaronne, qui existait encore à l'époque, qui était un beau festival. Et c'était l'époque, donc là, c'était dans le milieu des années 90. Et pareil, à l'époque, Emmanuel Bex ne jouait pas vraiment un orgue avec une Leslie, tout ça. Il jouait un orgue avec plein d'effets, un synthé branché sur l'orgue en même temps, avec des sons très, très, très surprenants, très, très lyriques, comme toujours chez ce musicien. Avec des basses d'une profondeur démentielle, avec un caisson de basses, uniquement pour les basses de l'orgue. Sur scène, ça faisait beaucoup, beaucoup de bruit. C'était assez stupéfiant. Et je me suis demandé, il jouait avec, c'était à l'époque le Beckstead, et l'invité, je me rappelle, Dee Lockwood, qui était invité.
Voilà.
Il jouait en duo In a Sentimental Mood avec des sons complètement lyriques et très surprenants. Et je me dis, de quoi joue ce mec-là? Je me demandais quel instrument il jouait. Enfin, c'était un orgue à mon augmenté de plein d'effets sonores, comme on peut une guitare électrique mettre des effets. C'est vrai qu'il y avait une tradition. En France, des gens ont joué aussi un peu en dehors de la tradition américaine. Ils ont inventé d'autres façons de faire. Eddie a donné un peu le ton. Et Bex a vu à Uzest. Eddie Lewis, on se demande ce qu'il y a. Bex, à l'époque, habite à Bordeaux.
D'accord, oui, oui.
Il traînait beaucoup à Uzest. Et il demande à Eddie, mais c'est quoi cet instrument? Et Bex raconte qu'Eddie lui file une adresse qui était fausse pour trouver un instrument. Bonne chance. Parce qu'à l'époque, c'était quand même assez rare. Années 80, c'était plus trop la mode, quoi. Voilà, et Bex, pareil, entend cet instrument et se dit, bon, je vais jeter ça.
Alors, on va l'écouter. Alors, il est en trio avec deux autres grands musiciens, Aldo Romano à la batterie et Philippe Catherine, le guitariste belge, moi, que j'ai découvert dans les années 70. On l'écoute dans l'album La Belle Vie. Alors, c'est en 2019. Le titre, c'est Elsa M. Thank you. Emmanuel Bex en trio avec Aldo Romano à la batterie, Philippe Catherine à la guitare, l'album La Belle Vie en 2019. Aujourd'hui, on est avec Hervé Saint-Guiron et on parle d'orgue Hammond. Alors justement, on ne peut pas parler d'orgue Hammond sans mentionner la grande Rhoda Scott.
Ah bah oui.
Très connue du grand public, justement, elle, et qui depuis quelques années fait un retour en force dans le jazz avec son Lady Quartet et son Lady All Stars. Alors on les a vus cet été au Rocher de Palmer, on les a vus il y a 2 semaines au festival Jazz et Garonne de Marmande, où j'ai eu le privilège de l'interviewer avec ses 3 musiciennes, Julie Sory, Lisa Cadbero et Sophie Allour, cette dernière étant Victoire de la Musique 2002, meilleure instrumentiste, tout sexe confondu, je rappelle. Et oui, j'ai mis le lien sur la page Facebook de l'émission Jazz d'ici et d'ailleurs. Alors Rhoda, elle a 84 ans et elle pilote son orgue comme au premier jour. À fond, il fallait le voir trembler à la fin du concert sur le rappel qui était consacré à Ray Charles, un autre grand organiste. Alors on en parlera après, on écoute One by One, c'est une composition de Wayne Shorter.
Thank you.
Et c'était Rhoda Scott avec le Lady Quartet. C'était il y a déjà quelques temps, puisque maintenant elle a le Lady All Stars, où au lieu d'être 4 sur scène, elles sont 7, mais enfin elles tournent avec les deux formations. Donc je répète, Sophie Allour au sax ténor, Lisa Cadbero au sax alto, Julie Sori à la batterie. Et puis il y a aussi sur l'album, il y a Géraldine Laurent qui est invitée, il y a Anne Passeo à la batterie et Julien Allour. Voilà, elles ne sont pas complètement sectaires, puisque dans ce quartet féminin, elles acceptent les hommes aussi. Quelques mots sur Rhoda.
Ouais, bah, Rhoda, c'est un personnage incroyable, une carrière gigantesque. On ne fait pas une carrière aussi longue sans raison. Moi, je l'ai rencontrée il y a quelques années. C'est quelqu'un d'en plus très sympathique.
Je confirme.
Voilà, il faut imaginer quelqu'un qui passait à la télé dans les années 70, le dimanche, en jouant à la musique instrumentale.
Oui, oui.
Donc, ça, elle a touché plein de gens. Tu connais ces belles femmes, je crois, quand même.
Oui, oui.
Qui faisait une musique très accessible, très évidente. Et vraiment, je dis ça, c'est très valorisant. C'est une musique qui embarque les gens, qui plaît. Et moi, ça fait 20 ans que je joue de l'orgue en concert, on va dire, à mon niveau. Et pendant 10 ans ou 15 ans, il y avait tout le temps qu'il venait par quelqu'un qui me parlait de Rhoda Scott à la fin des concerts. Ah, moi, j'étais jeune, je regardais quand c'était à la télé. Enfin, c'était une constante, vraiment. Et les gens me parlaient avec les yeux qui s'écarquillaient. Je me rappelle, dans un village dans les Landes, quelqu'un qui me dit « c'était vraiment une belle femme », il me disait. C'est un monsieur d'un âge respectable, déjà. Et voilà, je crois que quelqu'un lumineux comme ça, il diffuse la bonne parole. Elle a joué tout le temps de l'orgue, elle a donné envie à plein de gens de jouer de l'orgue, et notamment avec une technique de pédalier un peu spéciale qui vient un peu de l'orgue cinéma, ou avec un synthétiseur qui est branché sur les pédales. Voilà, bon, c'est une façon de jouer que peu de gens ont joué, mais qu'elle a su amener avec une technique absolument virtuose. Et je pense qu'à une époque, tout le monde voulait jouer comme elle en France. Tous les orgues étaient modifiés de cette façon-là, alors que c'est une technique que pas grand monde joue.
Oui.
Voilà, tellement quand on fait école, on embarque les gens avec soi. C'est pendant aussi longtemps, c'est merveilleux, je pense.
Voilà, elle est plus très très leste maintenant, mais par contre, elle a toujours l'œil qui pétille, je peux vous le dire. Et sur scène, quand elle présente les morceaux, elle a un humour quelquefois même qui est un peu osé. On s'est bien marré quand on l'a entendu l'autre jour. Bon, mais venons-en à toi, Hervé Saint-Guiron. Donc, toi, tu joues de l'orgue dans diverses formations et tu as choisi de passer un extrait du dernier album des Soul Jazz Rebels.
Ben merci, oui, c'est un groupe qui a quelques belles années d'existence déjà. Là, on va passer un extrait du second disque que je vois sur la liste devant moi. Mais le second, on va bientôt ajouter par un troisième disque qu'on va enregistrer dans un mois, un petit peu plus. Voilà, c'est un groupe où on ne joue que des compositions, mais dans l'esthétique soul jazz. Et on s'amuse bien, c'est un quartet avec Tonton Salut à la batterie, Jean Werner au saxophone et Cyril Amourette à la guitare.
Des gens du sud-ouest.
Oui, dont certains qui sont partis en sud-est, oui, et d'autres qui sont partis en Suisse.
Mais
enfin,
bon,
voilà, c'est à peu près des Toulousains, à peu près des Bordelais, mais il y a eu des mouvements entre temps. Et on fait toujours notre 20-25 concerts par an à peu près. On a fait un bon tour des festivals français. On a écoulé quelques disques. On n'a plus de disques à vendre, on n'a plus rien, on n'a plus de stock. Mais voilà, donc on doit bien en refaire un. On espérait le faire avant le Covid, mais on a été un peu embêté avec un guitariste parqué en dehors de France, entre autres.
Et oui,
et puis
Cyril.
Tout le monde était embêté. Voilà, donc les projets resurgissent. Et donc là, mi-décembre, on sera en studio à Midi Live à Paris. On essaiera de faire sonner l'orgue local pour faire un nouvel opus. Avec que des compositions.
Voilà, on vous a vu régulièrement dans des festivals à Bordeaux. Vous avez souvent joué.
Oui, et alors je peux dire, c'est une primeur qu'on jouera cet été à Montségur le samedi 8 juillet sur la scène des Tilleuls en première partie de je ne sais pas qui. Il faut demander à Philippe, mais je n'ai pas encore l'info. Voilà, c'est une info toute fraîche, ça.
Voilà, ben on recevra Philippe Vigier dans l'émission dans quelques temps. Et bon, donc le 8 juillet, ben je sais déjà que je vais rater parce que je serai au festival de Cap-Breton.
Ah, voilà.
Voilà.
Ouais, voilà.
Voilà. Et Philippe Marza, notre photographe qui est sur le plateau, lui confirme qu'il sera bien à Montségur. Alors, on écoute une composition de ta main qui s'appelle Don't Stop the Boogaloo. Thank you.
c'est quoi le goût.
On vient d'écouter Don't Stop the Boogaloo, une composition de notre invité Hervé Saint-Guiron, organiste au sein du Soul Jazz Rebels, mais qui joue aussi de l'orgue avec d'autres,
oh bah oui,
avec d'autres groupes.
Beaucoup de
J'ai
gens.
J'ai ici sous la main le Yann Pénichou, hein. Organ Trio, Up and Down.
Oui, je joue avec beaucoup de gens, avec Monique Thomas, je joue aussi du gospel avec une amie qui s'appelle Marilyn Olivier, je joue avec Alex Olino, Roger Buandou, voilà, de la scène locale, on va dire. M'a sollicité. Là. Alors, au départ, quand j'ai commencé à jouer de l'orgue il y a 20 ans dans la région, un peu plus, l'instrument n'était plus trop pratiqué. Il n'y avait plus grand monde qui en jouait. Donc les gens m'ont laissé en jouer gentiment dans mon coin. J'ai dû créer mes groupes à moi, on ne m'appelait pas. Hein. J'ai dû travailler tout seul. D'accord. Parce que les gens ne savaient plus trop quoi faire avec un orgue. Alors, modestement, j'ai quand même donné l'idée à des gens d'en jouer. Maintenant, l'idée a été reprise par plein d'autres. Hein. Je n'ai pas de monopole. Mais même à une époque, un magasin de Bordeaux qui venait voir, ah, Hervé Saint-Guiron, il joue tel type d'orgue, on peut en acheter un. Voilà, bon, voilà, le fait d'être assez présent localement, on m'a beaucoup vu, un peu trop peut-être des fois,
mais non.
Voilà, ça donnait l'idée à des gens de dire qu'est-ce qu'on peut jouer avec un orgue. Voilà, ce qui était les gens avaient un peu perdu l'habitude. Alors, des anciens, eux, savaient très bien ce qu'on jouait avec un orgue. Quand je dis anciens, des copains, Pays Basque, Marc Alibert, des gens comme ça, eux, ils ont joué avec Lou Bennett très longtemps. Voilà. Eux, ils savaient très bien ce qu'on jouait avec un orgue. Même les guitaristes locaux ne savaient pas très bien ce qu'on pouvait faire avec un orgue par rapport à un bassiste. Ils ne savaient pas très bien. Alors, quand Yann Pénichou est arrivé de Poitiers, dans la région, là, j'avais un guitariste qui savait vraiment ce qu'on pouvait faire avec un orgue.
Voilà.
Après, j'ai un copain là, que j'ai vu tout à l'heure, Dave Blinkhorn, lui, sait très bien ce qu'on pouvait faire avec un orgue. Alors, pub, on joue samedi au Télonus à Bordeaux, ce samedi-là.
Ah, il faut annoncer, voilà. Justement, c'est l'agenda. Donc
à cause de la rediffusion, attention, c'est ce samedi-là, donc le samedi.
On est le 3, donc ce sera 5, le 5.
5, merci beaucoup. Voilà, on joue avec Roger et Dave au Télonus à Bordeaux. Voilà, mais c'est vrai que les gens, l'instrument étant moins populaire, avaient un petit peu. L'envie avait passé à une époque, mais elle est très vite revenue, parce que l'instrument est plaisant.
Absolument.
Puis on peut aborder beaucoup de musiques différentes. Là, on parlait du bougalou,
voilà.
Qui est aussi une musique qui évoque la danse. L'orgue était assez bon pour ces musiques du jazz qui se dansait encore dans les années 60. Tout à l'heure, on écoutait Jeff McDuff. Voilà.
Enfant, je me souviens, à la télé, on ne voyait que Pierre Spears dans les émissions.
Et c'est vrai qu'on a eu Charlie Oleg après en France. Moi, c'est la génération Charlie Oleg qui jouait vraiment un orgue à Mont Blanc, qui était un peu moins dansant, mais bon, un musicien qui connaît, il paraît 5000 morceaux comme ça, dans toutes les tonalités.
Ok, bon, justement, tu évoquais le Télonius, c'est l'heure de l'agenda. Donc le Télonius, vous y êtes avec Roger et Dave Blinkhorn. Roger se rappelle, Roger Biwandou, c'est le parrain de notre émission, avec Roger Biwandou et Dave Blinkhorn. Donc c'est le 7, voilà, puisque pour la rediffusion, ce sera passé, ce sera trop tard. Alors, vous avez aussi les endroits où on peut écouter du jazz. Alors, le Quartier Libre, vous allez tout ça, ils ont tous des sites, vous pouvez y aller pour voir la programmation. Le Quartier Libre, vous avez la jam notamment tous les mercredis soirs. Vous avez un lieu, un bar qui passe, où passent les jeunes musiciens bordelais du conservatoire, c'est Petit Pierre. Petit Pierre, c'est au pied de la porte de Bourgogne, au débouché du pont de Pierre. Vous avez un peu plus haut, c'est le Minus Pub, c'est Cours Victor Hugo. Alors là, il y a la jam les premiers et troisièmes jeudis du mois. Donc je sais pas, je crois qu'on est le premier jeudi du mois, ce soir, donc ça marche. Vous avez l'Apollo de temps en temps. Le Singe Vert, donc c'est un nouveau lieu qui est près de la Porte de la Monnaie, où on écoute du jazz New Orleans. Régulièrement le Cottage du Lac, avec des repas en musique. Etcheona, alors là il faut aller au Pila, c'est tous les vendredis soirs, c'est l'invité de la session dernière qui était avec nous, Denis Giraud, qui organise ça. Et puis vous avez aussi les concerts. Alors donc ce soir il y a un très très gros concert de jazz au Rocher de Palmer, c'est le Kaïl El-Zabar Quartet. Alors Kaïl El-Zabar, c'est le percussionniste notamment de l'héritage ethnique, héritage ensemble, avec les musiciens de Chicago. Donc moi j'ai eu l'occasion de le voir déjà plusieurs fois, il est en quartet et donc là ça promet d'être un très très beau concert ce soir. Mercredi 9 novembre, alors là c'est au Cube, une très très belle salle à Villeneuve-d'Ornon, c'est à 20h30, vous aurez Siné Egg et Thomas von Esbach. Alors c'est un duo, elle est à la voix et lui il est à la contrebasse, et pour l'avoir écouté c'est magnifique, c'est au Cube, ils font des concerts comme ça prestigieux de temps en temps, l'entrée n'est pas très très chère et en plus la salle est magnifique. Le samedi 12 novembre, alors là, c'est dans le cadre de l'Esprit du Piano, à l'Auditorium de Bordeaux, Cours Clémenceau, Antonio Farao Trio. Et puis, vous avez toujours, on reviendra ensuite, à l'esprit du piano, à l'auditorium, et Joey Alexander, trio. Alors lui, c'est un prodige, je ne sais pas, bon, depuis le temps qu'il a 12 ans, il doit en avoir maintenant 18 ou 19, je ne sais pas. Et donc, il est en trio, c'est un prodige du piano, à l'auditorium. Alors, l'auditorium, si vous allez sur le site, souvent, il n'y a pas de place. Par contre, si vous vous déplacez à l'entrée, à la billetterie en général, elle fonctionne. Je l'ai déjà testé plusieurs fois. Alors, samedi 12, si vous êtes du côté de Targon, dans le cadre des 24 heures du swing qui se délocalise de temps en temps, vous avez Thaïs Lona, donc c'est du soul rap, R&B, jazz. Elle est dans l'écurie d'Ibrahim Malouf, c'est lui qui l'a découverte et qui est en train de la propulser un peu en façade, là, voilà. Et puis le dimanche 13, vous avez de l'électro-jazz. Vous voyez, le jazz, le terme jazz, c'est aussi précis que le terme mammifère. Hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien une baleine qu'une souris. Hein. Voilà, donc l'électro-jazz, Sungazer au Rocher de Palmer.
Mais quel est ton choix, Philippe? Plutôt baleine ou plutôt souris?
Oh, moi j'aime tout, je ne suis pas difficile. Voilà, alors mercredi, rediffusion de l'émission. Alors pardon, merci Hervé. Rediffusion de l'émission jeudi à 17h et en podcast dès aujourd'hui. Alors on se retrouvera en direct dans 2 semaines, le 17 novembre, avec une émission spéciale consacrée au saxophoniste-compositeur Eric Seva, qui sera avec nous sur le plateau à l'occasion de la sortie de son nouvel album Adéo. Eh bien écoute, Hervé, je te remercie de ta science sur l'orgue, vraiment.
Je suis bavard quand on parle d'orgue.
Mais écoute, tu étais là pour ça.
Merci pour l'invitation en tout cas, merci
avec
beaucoup.
Avec plaisir. Alors on se quitte avec l'Organ Power de Gaël Aurélou. Alors lui, il n'est pas organiste, il est saxophoniste, mais il a embauché à l'Orgamond un des meilleurs musiciens de la scène actuelle jazz, c'est Fred Nardin. Donc on écoute le Ajoton et on se dit à dans 8 jours.